Alternativa 2017. L'équipe d'Ondes Courtes est allée capter les conférences lors de l'édition Alternativa 2017. Samedi 15 juillet 2017, lors de l'édition de Alternativa à Ginals dans le 82, avait lieu une conférence animée par Pierre Lécolo sur l'autonomie récupération des eaux de pluie.
Donc sur cette partie des réglementations, je vais essayer d'aller vite aussi, mais c'est quand même très important. Une réglementation, il faut savoir lire les textes aussi, les lire sur toutes les lignes, parce que en juridique, chaque point, chaque virgule a son importance. Et donc il faut savoir décoder aussi les textes, de savoir à qui s'adresse ce texte, dans quel contexte, et comment il faut l'apprécier en fonction de ces contextes. Il faut aussi discerner l'applicabilité des textes. Tout simplement de savoir si ce texte est applicable ou pas. Parce que le problème, c'est aussi une habitude en France. On bombarde de projets de loi. Parfois les lois elles passent, parfois elles passent pas. Mais il y a des lois qui passent aussi, mais qui seront jamais appliquées, parce qu'elles seront jamais complétées de leur texte d'application. Une loi, c'est une loi, mais ça doit être complété par ses décrets, les arrêtés, les circulaires, les bulletins des impôts. Donc il y a tout un tas de textes périphériques qui permettent la mise en application d'une loi. Mais il y a beaucoup de lois en fait qui passent, c'est tout simplement pour figurer au CV du ministre, du député ou du couillon qui a voulu prendre cette loi, quoi. Parce que dès qu'une loi est pondue, ça passe sur leur CV. Après, si je n'ai pas appliqué, on s'en fout, moi, tant que j'ai ça sur mon CV, je suis content, quoi. Mais ça aussi, c'est une réalité. Jusqu'au jour où une avocate m'a dit, mais monsieur, rendez-vous compte que vous êtes en France, vous avez peut-être la moitié des textes de loi qui ne sont tout simplement pas applicables. Quand même, vas-y, si. Jusqu'au jour où, quelques mois plus tard, par hasard, en fouillant sur le site du Sénat, je suis tombé sur le schéma en fromage, là, et tout, entre les lois directement applicables, moyennement applicables, en cours d'application, qui ne sont pas applicables du tout, ou qui n'ont aucun texte complémentaire, eh ben oui, les lois qui ne sont pas applicables, ça représentait, selon les années, selon les textes, ça représentait entre 40 et 60% de textes qui ne sont pas applicables. Et l'arrêté du 21 août que je vais vous parler juste après, justement, pour moi, il n'est pas, juridiquement, il n'est pas du tout applicable, il ne pourrait même pas atterrir sur le bureau d'un juge, quoi. Ça aussi, c'est une réalité à la française. Mais vous savez pas, ça. Donc c'est facile de vous faire peur. C'est facile de bombarder des textes et tout, de parler de redevances, de parler de contrôle, de parler de taxes, de parler de déclarations, patati, patata. Évidemment, ça vous fait peur. Et qu'est-ce que vous allez avoir comme réaction? Ah oui, mais non. Si déjà, il faut déclarer, qu'il faut être taxé, qu'il faut être contrôlé, patati, patata, moi je déclare rien, on me fout de la paix, quoi. Eh oui. C'est ce qui est arrivé, ça a été la réalité du terrain aussi. Et c'est ce que j'ai reproché plusieurs fois directement aux deux ministères aussi. Je leur ai dit, c'est de votre faute. Vous avez créé cet état de fait. Au lieu d'essayer de sécuriser un petit peu le système, de sécuriser ce genre de projet, vous avez fait l'effet inverse. Vous avez favorisé justement la clandestination des gens, parce que les gens ont pris peur. Vous n'avez jamais rien expliqué. Donc à quoi sert la taxe? Pourquoi on déclare? En quoi consiste le contrôle et tout? Vous ne savez pas tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pris peur. Oh, vous ne pouvez pas m'emmener chez moi, je déclare rien, et puis c'est tout, quoi. Et c'est comme ça qu'on favorise la clandestination. Donc ça, c'était une démarche complètement en sens inverse, et qui n'a pas apporté grand-chose de concret, je veux dire, derrière. Donc beaucoup de mauvaises interprétations aussi, y compris des pouvoirs publics, hein, faut pas se leurrer. Hein. Tous les services décentralisés et tout, les pouvoirs publics, les collectivités, même au ministère. Hein, ils sont pas moins couillons que les autres non plus au ministère, mais eux aussi, ils sont pas là près du méchant de bourde. Hein. Et donc il y a beaucoup de désinformation qui a circulé depuis le début, donc on n'a pas expliqué, on n'a pas sincèrement, je vais dire, incité les gens à se lancer. Plus personne s'y retrouve, y compris au niveau des professionnels. Combien de discussions j'ai eues avec des confrères pros? Ah oui, mais on savait pas ça. Mais non, mais vous savez pas, personne ne vous l'a dit, donc c'est normal. Donc soyez aussi très vigilants par rapport à ça. Et donc au niveau de cette réglementation, ça a commencé par la loi sur l'eau, donc la nouvelle loi sur l'eau de décembre 2006. Et pour mettre en application donc, cette loi, il y a eu tous ces textes, décrets, circulaires, arrêtés, le bulletin officiel des impôts. Et donc voilà, c'est ça qui permet aussi la mise en application de cette loi. Mais dans tous ces textes aussi, voilà, c'est un gros conseil que je vous donne là. Une grosse astuce. Pour n'importe quel domaine de la vie courante, bon, ici que ce soit sur l'eau de pluie, sur l'assainissement, sur tout un tas de choses, dès lors qu'une collectivité, un service, n'importe, un simple exemple, vous voulez faire construire, vous déposez le permis de construire, il y a beaucoup de collectivités à l'heure actuelle qui vont vous dire, oui mais sur le permis de construire, vous voulez être autonome en eau de pluie et tout, ou sur votre source, c'est bien, non mais vous avez quand même obligation de vous raccorder au réseau d'adduction publique. C'est faux. C'est ce que je parlais tout à l'heure au début, c'est une mauvaise habitude qui est devenue une règle. Cette règle, elle n'a aucun fondement. Et j'ai déjà eu plusieurs retours, plusieurs cas, où justement les gens disaient, oui mais on m'oblige, on me dit que c'est obligé. Le terrain doit être viabilisé en électricité et en eau pour pouvoir bénéficier du CU ou des permis de construire. C'est faux. Il n'y a aucun texte en France, aucun texte national en France qui impose le raccordement à l'adduction publique. Et au contraire, justement, il y a un article de loi dans le Code des collectivités territoriales qui précise bien que n'importe quel abonné peut demander son désabonnement du réseau de distribution publique, peut demander son désabonnement à tout moment. Donc là aussi, il faudrait qu'on m'explique pourquoi on vous obligerait à vous raccorder, si vous pouvez vous déraccorder ou vous désabonner à tout moment. En plus, il n'y a aucun texte qui l'oblige. Et ça, on va vous répondre, oui, mais c'est inscrit dans le RSD, le règlement sanitaire départemental. Non ! Si c'est inscrit dans le règlement sanitaire départemental, ça veut dire que le règlement sanitaire départemental outrepasse la loi nationale. C'est interdit aussi. Donc on ne peut pas donner des obligations sur un RSD qui ne sont pas déjà prévues dans les textes nationaux. Donc ça, c'est du pipeau. Donc non, vous pouvez dire, non, j'ai la possibilité d'être autonome, je serai autonome sur mon autre puits, sur mon autre souffle, peu importe, de mon forage et tout, je n'ai pas besoin de votre eau publique, donc démerdez-vous, mais je n'ai pas besoin de votre branchement. Parce que le branchement, ça occasionne aussi des frais. Il y a tous les travaux, mais aussi après les taxes, qui viennent, les participations, c'est pas des taxes. Participation aux frais de branchement, voilà, ça présente quand même un certain coût, et le prix de l'investissement, je vais dire, de votre installation d'eau publique peut aussi être amorti par le fait de ne pas vous raccorder. Donc, dès lors, systématiquement, que l'on parle, qu'on vous parle, ou que l'on vous rétorque, oui, mais vous avez obligation de ceci, ou vous avez interdiction de cela, s'il y a obligation réelle et s'il y a interdiction réelle, c'est marqué quelque part. Ayez le réflexe systématiquement de quoi parlez-vous, et surtout, où est-ce écrit? Parce que c'est obligatoire. Si c'est obligé ou si c'est interdit, c'est écrit quelque part. Donc systématiquement, réclamez sur quel texte c'est écrit. Là déjà, j'ai déjà fait l'expérience, là ça passe déjà pas trop bien, vous voyez, parce que souvent, je me suis rendu compte, ils connaissent pas les textes qui précisent ça. J'ai eu encore le cas dernièrement avec une taxe d'habitation, dites-moi, où vous réclamez ça, mon ami qui avait un gros problème avec le paiement de la taxe d'habitation. Je dis non, la taxe d'habitation dans ce cas-là, elle est pas due. Ah ben si, parce que ceci, non, mais c'est marqué où? Donnez-moi le texte de loi. Parce que moi je les ai vus les textes de loi, je les ai lus, et c'est pas ça que ça dit. Et puis on a répété, non, donnez-moi le texte. Ah oui, mais ça on sait pas, commencez par savoir, on verra après. Mais c'est pour nous réclamer de payer, mais commencez déjà à formuler et à fonder vos réclamations. Mais c'est très courant, hein, je vous le dis très, très clairement. Donc méfiez-vous, parce qu'il y a énormément de baratins dans beaucoup de types de collectivités. Donc ayez ce réflexe, demandez à ce qui justifie leurs affirmations, leurs interdictions, leurs obligations. Alors vous allez voir que tout de suite on va changer de ton et ils vont commencer à être embêtés. Et cette fameuse LEMA, donc cette nouvelle loi sur l'eau et les milieux aquatiques, donc c'était son article 49 en fait qui introduisait enfin, parce que c'est la troisième fois que c'était proposé sur les trois dernières lois sur l'eau, mais enfin là c'était passé, qui proposait justement l'octroi d'un crédit d'impôt sur les installations de récupération d'eau de pluie. Et c'est là que ça se corse, c'est que donc de cette loi est sorti donc plusieurs arrêtés et décrets et circulaires, et l'arrêté principal, central pour la récupération d'eau de pluie, c'est ce fameux arrêté du 21 août 2008. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme les pouvoirs publics n'ont rien expliqué, ils ont juste fait une présentation succincte que tous les médias n'ont fait que du copier-coller, sans analyser, sans nuancer, rien. Évidemment, dans cette présentation succincte des ministères, ne figurait pas l'article 1. Et c'est comme ça que je n'ai jamais vu, et je vous dis bien jamais, ni vu, ni lu aucun média en France, ou aucune structure spécialisée en France, parler de l'article 1 de son arrêté. C'est quand même bizarre. Quand on lit quelque chose, on commence déjà au moins par le début. Donc oublier le début, c'est déjà grave, quoi. Mais cet article 1, il est fondamental. C'est lui qui définit tout le contexte. Qu'est-ce qu'il dit l'article 1 ? Au sens du présent arrêté, déjà ça c'est important, au sens du présent arrêté, deux points. Une eau de pluie est une eau non ou partiellement traitée. Ça donne la définition de ce qu'est une eau de pluie au sens de cette réglementation. Et la deuxième phrase est exclue de cette définition. Toute eau destinée à la consommation humaine produite en utilisant comme ressource de l'eau de pluie. Eau destinée à la consommation humaine, en fait, c'est le terme officiel de l'eau potable, de distribution publique. Donc en gros, est exclue de cette définition de l'eau de pluie potabilisée. Dès lors que vous potabilisez votre eau de pluie, au sens réglementaire, elle n'est plus considérée comme de l'eau de pluie. Elle devient de l'eau potable. Donc la définition de cette première phrase, justement, une eau de pluie est une eau de pluie non ou partiellement traitée, donc ça reste de l'eau non potable. Dès lors que vous potabilisez votre eau de pluie, ça ne rentre plus dans cette définition, et ça n'entre plus dans le champ d'application de ce texte, puisqu'il est bien marqué là, en rouge, au sens du présent arrêté. Donc comme c'est lui qui gère tout, qui est le centre névralgique, je veux dire, de cette réglementation, dès lors que vous potabilisez, que vous traitez complètement votre eau de pluie, vous ne correspondez plus à la définition de l'eau de pluie, réglementairement parlant, et vous n'entrez plus dans le champ d'application de cette réglementation. Merci, au revoir. Ce qui veut dire que toutes les contraintes qui sont définies dans un tout, merci, au revoir. On oublie. C'est important quand même de savoir ça, non? Mais en plus, dès lors qu'on va vous dire, ah oui, mais alors vous rentrez sur de l'eau potable, donc vous allez vous-même vous produire de l'eau potable. Donc si c'est de l'eau potable, hop, vous dépendez plus de la réglementation de pluie, vous dépendez du code de santé publique, qui lui légifère toute l'eau potable. Sauf que, c'est ce que j'ai lu encore dans un bouquin, grossière erreur, qui est notifié dans un bouquin justement, qui reprend l'article habituel 1321.1 du code de santé publique, toute personne qui délivre du public et tout de l'eau patati patata est tenue que, ce que cette eau soit bonne à la consommation. Toute personne qui offre du public dans un bâtiment public, collectif, professionnel, locatif, tout ce qu'on veut. Mais c'est le gros problème aussi de cet arrêté du 21 août. Et c'est pour ça aussi qu'il n'est juridiquement pas applicable cet arrêté, parce qu'il a tout amalgamé. On a mis toutes les mêmes contraintes, les mêmes interdictions, les mêmes obligations et tout, et pour les usages publics, professionnels, locatifs, collectifs, et les particuliers, dans les usages familiaux. Ben non, on ne peut pas amalgamer les particuliers dans un usage familial avec le reste, puisqu'il n'y a pas de délivrance, justement, c'est ce qu'on appelle la mise à disposition du public. Donc là, oui, si vous mettez à disposition, c'était mon cas, chez moi, j'avais ma maison qui était autonome en eau de pluie et mon gîte, même si je n'étais pas officiellement reconnu comme établissement recevant du public, parce que j'étais moins de 15 personnes, mais je recevais quand même du public, des gens que je ne connaissais pas, donc hors cadre familial, qui venaient chez moi et qui payaient pour venir chez moi au niveau de mes chambres. Donc au niveau du gîte, je ne pouvais pas être autonome comme je l'étais au niveau de ma maison. Puisque là, il y a mise à disposition du public. Donc je ne pouvais pas mettre mon eau de pluie sur mon gîte. Donc c'est pour ça que le gîte continue à fonctionner en eau de ville. Parce que si je voulais, j'avais commencé les démarches, les négociations pour rendre mon gîte autonome aussi, mais alors ça voulait dire que même si j'obtenais la dérogation officielle du département et des autorités sanitaires pour rendre mon gîte autonome sur l'eau de pluie, je devenais distributeur au même titre que Veolia, Suez et compagnie. Avec toutes les obligations et les contraintes qui vont avec. Le carnet d'entretien, les analyses prouvées et démontrées que l'eau est potable, et qu'elles sont potables tout le temps, tout le carnet d'entretien, des matériels certifiés, homologués, tout ce qu'on veut. Ah oui, mais là c'est plus pareil, hein. Ça c'est clair. Mais c'est néanmoins possible. C'est néanmoins possible. Et comme jamais personne n'a présenté cet article 1 et n'a expliqué cet article 1, mais voilà, il faut comprendre que si vous traitez complètement votre eau, vous n'êtes plus concerné du tout par cette réglementation. Et si on vous rétorque, oui, mais alors vous dépendez du code de santé publique, non. Pourquoi? Parce qu'il faut lire aussi le code de santé publique. Et dès lors que vous n'êtes pas sous un seuil de 50 personnes jour ou de 10 mètres cubes jour, un seuil de 50 personnes distribuées ou un seuil de 10 mètres cubes jour, vous n'êtes pas soumis non plus au contrôle sanitaire. Donc si vous n'êtes pas soumis au contrôle sanitaire, pas de raison qu'on vous impose une certaine qualité d'eau, puisqu'on ne viendra pas vous la contrôler. Donc vous n'avez pas un devoir de potabilisation dans votre cadre familial. Même si vous produisez vous-même votre eau potable, vous êtes libre. Est-ce qu'on vous interdit certains usages avec votre électricité? Ah oui, vous pouvez utiliser l'électricité pour le téléphone, le machin, la télé, mais pas pour ça. Est-ce qu'on va vous dire, oui, mais dans votre frigo américain et tout, voilà, attention, tel type d'électricité, tel type d'eau, mais pas une autre. Mais non. Dans vos usages privés intérieurs, on n'a pas à se mêler de ça. C'est un pouvoir d'ingérence, sinon. Et l'État n'a pas à surveiller quelle qualité de bouffe vous avez, parce que justement, avec toute la merde qu'on vous distribue, hein, vous avez compris, quoi. Donc il faut savoir aussi que les bouteilles d'eau minérale qu'on vend dans le commerce partout, il y a la moitié qui serait retirée du marché si elles étaient soumises à la réglementation de l'eau potable. Il faut savoir que ce n'est pas le cas. Les eaux minérales, les eaux de source, oui, mais les eaux minérales ne sont pas soumises à la réglementation de l'eau potable, elles sont simplement vendues sous accréditation de l'Académie de médecine. Si elles étaient soumises à la réglementation eau potable, il y a plus de la moitié qui serait virée du marché. Ça aussi, il faut le savoir, parce que déjà trop minérale. Et donc on vous vend des choses qui ne sont pas forcément très saines, je veux dire alimentairement. L'eau, c'est pareil. Donc sachez simplement que si, sur cette base-là, et sur le fait que même si c'est une eau potable, potabilisée, vous ne dépendez pas non plus du code de santé publique, donc vous faites ce que vous voulez, dans votre quatre murs, dans vos usages familiaux. Vous faites ce que vous voulez. Et on n'a pas interféré là-dessus. Grâce, justement, à cet article 1. Et donc, il y a eu aussi d'autres arrêtés, deux arrêtés le 17 décembre 2008, un qui concerne justement la déclaration en mairie, et l'autre, le contrôle des installations privatives. Et déjà, quand on voit ça arriver, déclaration mairie, contrôle des installations privatives. Ça, c'est dans l'habitat. C'est plus comme un contrôle assainissement non collectif ou c'est sur le terrain. Là, ça veut dire que c'est un contrôle dans l'habitat. Niet, hein. C'est là, justement, heureusement, en France, on a encore un domicile qui est très protégé. Une notion d'inviolabilité du domicile, qui est très cadrée, y compris dans la Constitution française, y compris dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est très protégé. Donc un simple, excusez-moi, c'est pas par dénigrement, mais un simple technicien du service des eaux et assainissement qui va venir faire un contrôle dans votre habitat, dans votre privé et tout, juste pour contrôler, à savoir si vous avez mis un picto par-ci, un picto par-là. Ah, parce que dans la réglementation, une tuyauterie d'eau de pluie qui passerait dans la maison, ça passe dans un mur, d'un côté, hop, picto. Sur la toilette, picto. Eau non potable, picto avec le dessin. Et tout ça, ce sont des contraintes qu'on met sur le bâtiment public, pas sur un particulier. Donc imaginez quelqu'un qui contrôlait toute votre maison et tout pour savoir si vous avez mis des tuyaux de couleurs différentes, des pictos par-ci, des pictos par-là, des machins. Interdiction d'avoir deux robinets d'eau différentes dans une même pièce. Donc dans votre cuisine, vous ne pourriez pas avoir l'eau de pluie en même temps que l'eau d'huile. Faut arrêter. Hein. Donc vous voyez, tout ça, c'est à cause de cet amalgame en fait, où ils ont amalgamé tous les types d'usagers, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais voilà, mettez-vous à la place de ceux qui sont concernés. Et quand on voit apparaître un texte sur la déclaration de mairie et un autre texte sur le contrôle des installations, sans vous expliquer le pourquoi du comment, et sans chercher à vous rassurer sur en quoi consiste le texte et pourquoi il est fait, évidemment, tout le monde a pris peur, quoi. Normal. Et la circulaire aussi de novembre 2009, bizarrement, Elle existe, cette circulaire. Elle est très bien, en plus. Elle est très bien parce qu'elle vient un peu arrondir les angles des autres arrêtés. Et elle vient justement, elle est prévue justement pour accompagner la mise en œuvre justement du contrôle et pour préciser justement les contraintes, je veux dire, les obligations et tout, et relativiser certaines contraintes. Et si vous allez par exemple sur le chapitre des sanctions, mais déjà, c'est la deuxième raison pour laquelle l'arrêté du 21 août n'est pas sanctionnable, n'est pas applicable, puisqu'il n'est pas sanctionnable, parce que deux avocats m'avaient déjà dit, oui mais bon, parce que je posais la question, si on ne respecte pas les conditions qui sont dans cet arrêté, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme sanction? Rien. Poubelle. C'est pas plus compliqué que ça. Et quelqu'un va vous attaquer et tout, mais ça va même pas arriver sur le bureau d'un juge. Ah oui, ils n'ont pas respecté cet arrêté, d'accord, mais l'arrêté il est sanctionnable quoi? Donc le juge il va dire, mais je sais pas à quoi je dois le condamner. Ni à quel plafond, ni à quoi que ce soit, ni à quelle peine. Donc l'arrêté lui-même il n'est pas sanctionnable. Merci, poubelle, il ne sert à rien. Juridiquement, il sert à rien. Et la circulaire ici, elle vient bien arrondir aussi les angles. Et il y a un chapitre là purement décrit sur les sanctions, ben, c'est que si vous ne respectez pas, vous avez un rappel à la loi. Bien, on est bien avancé avec ça. Donc voilà, c'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. Tout ça, c'est pour vous faire peur. Mais surtout pour vous dissuader de ne pas investir sur l'autrui. Pas taper dans le business des copains. Elle est là la vraie raison. Donc c'est un pipeau monstrueux tout ça et qui malheureusement a très bien marché. Mais bizarrement, oui, cette circulaire, personne n'en a jamais parlé. Pourtant elle est bien faite, hein. Elle est bien écrite, elle vient bien arrondir les angles. Hein. Personne jamais n'en a parlé. Inconnu au bataillon. Vous trouvez pas ça curieux? Parce que là aussi, elle permet de relativiser aussi le rôle et le champ de pouvoir aussi des gens qui viennent contrôler. Parce qu'il est bien marqué là dans la circulaire justement que le contrôleur n'a aucun pouvoir. Et que si vous dites au contrôleur, non monsieur, vous restez sur la route, vous rentrez pas chez moi, le contrôleur, il n'a rien à dire. Hein. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'inviolabilité de mon essai. Au niveau de l'assainissement, c'est pareil. Hein. Au niveau de la gendarmerie, c'est pareil. Hein. Au niveau des contrôleurs Ninki qui vont se pointer et tout, c'est pareil. N'importe qui veut rentrer chez vous, non monsieur, vous restez là, je vous donne pas l'autorisation de rentrer chez moi. Merci, au revoir. Ils ne peuvent en aucun cas vous forcer la main. Il n'y a que dans un cadre, une procédure judiciaire avec commission rogatoire, là oui. Encore dans des cas d'urgence. Mais n'importe qui, y compris la gendarmerie, si vous voulez pas laisser rentrer chez vous, vous êtes libre et maître chez vous. Sachez-le là aussi. Donc pour les compteurs Ninki qui arrivent là et tout, ça aussi, vous pouvez arriver, non monsieur, vous rentrez pas chez moi. Et il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui vient de se faire relaxer, justement, parce que même là, avec les flics, le contrôleur a appelé les flics parce que le mec refusait qu'il lui change son compteur Ninki. Et bien, même devant les flics et tout, le papy, il n'a pas apprécié. Il a attrapé le mec par la peau du dos, il a foutu dehors Manu Militari. Et le gars s'est fait attaquer par l'installateur pour violence physique et compagnie. Il a été relaxé. Et maintenant, c'est lui qui s'est retourné, qui a redéposé plainte contre le contrôleur, pour violation de domicile. Voilà. Mais il a été relaxé, justement, parce qu'il était en droit de se défendre, parce que la personne était pénétrée contre son gré chez lui. Concernant le rejet, ah, ça aussi. Combien de fois aussi j'ai entendu « Ouais, mais c'est bien beau, mais quand on est en assainissement collectif, ouais, mais c'est bien beau, mais vous, avec vos récupérations d'eau de puits, de sources, machin et tout, cette eau que vous payez pas, donc qui passe pas par le compteur, donc vous payez pas la redevance assainissement. » Parce qu'il faut savoir que la redevance assainissement en sortie, c'est calculé sur base de votre compteur d'eau, le compteur d'alimentation. Donc si vous vous alimentez en eau de puits, ça passe pas par le compteur d'eau. Donc admettons que vous allez utiliser 40% d'eau de ville, 60% d'eau de pluie, mais il n'y a que 40% de l'eau de ville qui est passée par le compteur qui va être facturée en redevance assainissement. Donc il y a un manque à gagner de 60% derrière qui n'est pas comptabilisé et qui n'est pas facturé. Et donc combien de fois on m'a dit « Ah oui, vous profitez et tout, vous faites payer vos pollutions et tout aux voisins. » Non ? Ben, là aussi, je suis désolé, mais si les pouvoirs publics connaissaient la réglementation, connaissaient les lois, ça fait des années que les réponses sont écrites dans plusieurs textes. J'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus, je ne sais plus en quelle année. J'ai écrit une lettre ouverte, en fait, que j'ai intitulée « Lettre ouverte aux sénateurs possiblement fatigués ». Parce que déjà, sur la loi sur l'eau en 2006, le problème avait déjà été posé. Parce qu'évidemment, dans les députés et les sénateurs, il y en a beaucoup qui sont maires, qui sont présidents d'intercommunal ou présidents de syndicats des eaux ou quoi que ce soit. Donc évidemment, ils ont un petit peu peur aussi pour leur pépette. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ces gens qui rejettent, là, que c'est pas... il y a un manque à gagner, c'est pas facturé sur la redevance assainissement. Donc ils se posaient déjà la question en 2006, où les réponses figuraient déjà dans la loi. Et puis, Grenelle 2, vous avez oublié, vous n'avez pas oublié, hein, il y a eu le Grenelle 1 et puis le Grenelle 2. Et dans le Grenelle 2, rebelote, la discussion de Grenelle 2 s'est retombée encore sur le tapis. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'ai regardé un petit peu, parce que moi je fouille toujours un peu profondément. Je me suis rendu compte qu'il y avait au moins les trois quarts des députés du Grenelle 2 qui c'étaient les mêmes, qui avaient déjà posé les mêmes questions pendant les débats de la nouvelle loi sur l'eau. Les réponses, elles étaient déjà dans la loi. Et ils ne le savaient même pas. C'est eux qui font les lois, ils ne savent même pas ce qu'ils écrivent. Les ministères le savaient, c'est eux qui ont signé, ils ne savaient même pas. Mais la réponse, elle est simple. Vous mettez un deuxième compteur sur l'entrée de votre eau de pluie, sur l'eau qui rentre dans la maison, comme ça vous aurez un compteur eau de pluie, un compteur d'eau de ville. On prend les deux, vous avez les 100% qui est utilisé dans la maison, et donc les 100% qui seront rejetés à l'assainissement. C'est simple. Et si vous n'avez pas de deuxième compteur, eh ben, le service là, est en droit, et ils ne le savent pas, c'est con, c'est un droit qu'ils ont, mais ils ne le savent pas. Ils sont en droit de vous faire une estimation forfaitaire. Et de vous faire une facture forfaitaire en fonction de la surface de toiture, de votre volume de stockage et de votre consommation et tout. Voilà, pour respecter ce manque à gagner. Mais ce manque à gagner, c'est bien. Mais je suppose qu'il y a pas mal de gens entre vous. Vous avez du terrain, vous avez du jardin. Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui arrosez votre jardin avec d'autres villes. Non ? C'est pas le cas ? Est-ce que vous avez déjà pensé que votre eau d'arrosage en eau de ville, elle est passée par le compteur ? Donc si vous êtes en assainissement collectif, elle passe par le compteur. Donc elle est facturée en redevance. Sauf qu'elle part pas au réseau. Elle part dans le jardin. Donc là, il y a un surplus. Bizarrement, il n'y a personne qui ose mettre. Tu ne devrais pas s'acquérir ? Parce qu'avant, ça existait les compteurs verts, les compteurs qui décomptaient l'eau qui sortait vers le jardin, en fait. Il y a un article de loi là-dessus. Il y a un article de loi qui est très clairement rédigé que sur le calcul de la redevance assainissement, ne doit pas être considéré le volume qui sort sur les usages extérieurs. Normal, puisque ça part pas au réseau, donc ça ne va pas être traité par... Parce que la redevance, en fait, c'est sur la collecte, le transport et le traitement des eaux usées. Là, oui, ça marche dans un sens, mais dans l'autre sens, il n'y a personne qui vous pète. Pourtant, c'est quand même bien réel, quoi. Donc, si vous êtes en assainissement collectif, ben simplement, vous posez un deuxième compteur sur votre entrée d'eau de pluie dans la maison. Comme ça, ce sera simple.
Et si on a un assainissement particulier, alors on peut demander à...
Vous en foutez, alors.
Mais je m'en fous pas, puisque je paye l'assainissement quand même.
Non, dans vous ne payez pas l'assainissement. En assainissement non collectif, c'est ce que j'expliquerai aussi demain, en assainissement non collectif, vous ne payez pas l'assainissement. Vous payez la redevance assainissement. Ça aussi, jamais personne qui l'explique, donc vous ne comprenez pas, c'est normal. Il y a deux redevances, la redevance assainissement collectif et la redevance assainissement non collectif. Donc la redevance collective, c'est ce que je viens de décrire, c'est une redevance. Une redevance, c'est la différence avec une taxe, ça non plus, on n'a jamais expliqué. Une taxe a un caractère général et obligatoire. Une redevance, c'est toujours pour un service public rendu. Mais aussi, il faut que ce soit votre service, c'est en échange d'un service public rendu et effectif, parce qu'il faut qu'il soit effectué avant de payer. Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'assainissement non collectif. Mais donc la redevance assainissement collectif, vous payez pour le transport, enfin la collecte, le transport et le traitement de vos eaux usées. Donc en fait, c'est pour payer tout le service public du réseau tout à l'égout et de la station d'épuration. Donc ça, c'est un service public qu'on vous rend pour traiter par les pouvoirs publics vos eaux usées. Donc là, c'est normal. Donc c'est cette redevance qu'on paye pour collecte, transport et traitement. La redevance de l'assainissement non collectif, par contre, c'est tout à fait différent. Vous ne payez pas l'assainissement. Vous payez simplement un service public de contrôle de votre installation. Donc le SPANC, ce qu'on appelle le SPANC, vous le connaissez certainement si vous êtes dans le cas. Et donc le SPANC, c'est le service public de l'assainissement non collectif, c'est l'organisme, enfin, c'est le personnel qui est simplement chargé de venir contrôler votre installation, s'il est conforme ou pas. Et donc c'est simplement le coût du service, de ce contrôle et de ce qui va avec, que vous payez au travers de la redevance assainissement non collectif. Donc on ne paye pas l'assainissement en fait, en non collectif. On paye simplement le contrôle. Donc c'est très différent d'une autre.
On est obligé de rester en place sur le théâtre si tu n'aimes pas les contrôles,
Non. Nous, au sein de la Fédération Nationale que j'ai co-créée, dont je suis secrétaire, on a lancé, là, fin de l'année dernière, on a lancé un manifeste national pour expliquer aux gens comment ça fonctionne et tout, et de leur dire, vous aussi, vous en avez marre des contrôles abusifs, parce que le contrôle assainissement, il faut savoir aussi que, bon, là je déborde, mais c'est du personnel qui n'est pas forcément compétent, qui n'est pas forcément qualifié, il n'y a aucun référentiel national de certification, qui n'est pas normal du tout, parce que tous les autres diagnostics immobiliers, ils sont tous certifiés, sauf l'assainissement non collectif. Et en plus, c'est le seul diagnostic qui peut impliquer directement des travaux. Donc là, on a lancé un manifeste pour expliquer aux gens, si vous aussi vous en avez marre, et que vous attendez aussi que ce qu'on nous on réclame au sein des ministères, qui change la donne et qui change la réglementation, mais tant que la réglementation n'est pas changée, que les contraintes ne sont pas rétablies, ben, vous refusez l'accès à votre propriété. Vous ne refusez pas le contrôle. Attention, c'est différent, juridiquement c'est différent. Vous ne refusez pas le contrôle, parce que là, vous êtes hors la loi, je veux dire, vous refusez simplement l'accès à votre propriété. C'est tout à fait différent, parce que là c'est un droit fondamental qui est reconnu dans la Constitution française et dans la Déclaration des droits de l'homme. Bon là vous serez soumis à une pénalité financière, donc une pénalité financière pour obstacle au contrôle, pénalité financière qu'on dénonce aussi, parce que là aussi dans l'interprétation ça part dans tous les sens, il n'y a personne qui sait en fait sur quel fond se baser. C'est des problèmes en cascade, il y a tout un tas de problèmes comme ça. Et c'est... Donc il faut être vigilant, mais dans tous les sens, dans tous côtés, sur tous les sujets. Donc il existait aussi, c'était tellement foireux qu'ils l'ont retiré. Il existait aussi une taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Je ne sais pas si vous comprenez l'intitulé. Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Est-ce que vous pensez que ça vous concerne, vous, dans votre installation particulière privée chez vous ? Non, mais là, voilà. Mais ça a porté la confusion chez tout le monde. Y compris chez les collectivités, y compris chez les professionnels. Mais ça n'a rien à voir. Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, c'est exactement le parallèle du tout à l'égout, au niveau des eaux usées. Donc en fait, maintenant, il y a des grosses collectivités qui peuvent se permettre au niveau financier de faire ce qu'on appelle des réseaux séparatifs, parce qu'on est majoritairement en réseau unitaire. Mais ce réseau unitaire qui avant recueillait les eaux usées et les eaux pluviales, maintenant on ne peut plus rejeter les eaux pluviales dedans, Parce qu'évidemment, c'est des eaux pluviales plus ou moins propres qui vont engorger, faire déborder et diluer, je veux dire, les eaux usées. Et justement, la station sera encore moins efficace sur ces eaux diluées. Donc, on ne peut plus maintenant envoyer les eaux pluviales sur le réseau tout à l'égout, mais alors il faut trouver une alternative. Donc, c'est pour ça qu'il y a des communes maintenant qui font les réseaux séparatifs. Et donc, les réseaux séparatifs, ben, vous payez la redevance assainissement pour la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, et vous auriez payé une taxe, là, c'est pas une redevance justement, une taxe pour la collecte, le transport et éventuellement le traitement des eaux pluviales séparément, sauf que c'est une taxe parce que ça n'a pas de caractère obligatoire. C'était facultatif pour les collectivités qui appliquaient ou qui n'appliquaient pas cette taxe, voilà, c'était à leur bon vouloir, mais une taxe qui ne s'appliquait aussi qu'à des propriétés dont on avait des surfaces imperméabilisées de minimum 600 m². Il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient des surfaces imperméabilisées de plus de 600 m². Je pense pas, hein. Donc est-ce que ça concerne beaucoup de gens d'entre vous? Ben non, mais il n'y a jamais personne qui a expliqué ça non plus. Les 600 m², j'ai jamais vu expliquer nulle part. Mais c'était dans la loi. Et c'était tellement foireux qu'ils l'ont retiré parce que ça n'a pas duré longtemps, donc maintenant ça existait. Mais vous voyez, encore un élément, un texte qui a été publié sous ce titre-là, mais taxe sur la gestion des eaux pluviales, oui, pluviales urbaines, donc rien à voir avec les particuliers. Mais les gens tout de suite, clac, boum, là il y a les antennes qui sortent, et comme on n'explique pas, et voilà. Donc ça n'a rien à voir et ça n'a aucune incidence sur vous. Et ça n'en a même plus sur la collectivité parce que elle est retirée. Donc le contrôle des installations privatives aussi, ça aussi il faut savoir, personne ne sait. Le contrôle, le fameux arrêté là, sur le contrôle des installations intérieures, privatives, ne peut être fait que sur des foyers, que sur des habitations qui sont raccordées à l'adduction publique. Donc imaginez maintenant que vous avez un projet où vous voulez être autonome en alimentation d'eau, que vous êtes autonome en assainissement ou quoi que ce soit, non seulement vous n'avez plus rien déclaré, mais en plus vous n'êtes plus contrôlable. Évidemment, parce qu'il n'y a plus d'impact à avoir sur le réseau. Si vous n'avez pas de réseau, vous n'allez avoir aucun impact sur le réseau. Donc, et comme l'enjeu principal du contrôle, c'est justement de protéger le réseau public, et là, évidemment, à juste titre, c'est normal. On a une responsabilité, si on utilise une autre eau non potable dans la maison, on a une responsabilité aussi individuelle à ne pas, avec cette eau potable, risquer d'aller polluer le réseau d'eau potable public. Donc c'est ça, surtout, l'enjeu de ce contrôle. Mais dès lors que vous n'êtes plus, ou que vous n'êtes pas raccordé à cette adduction publique, sachez que vous n'êtes même pas contrôlable. Ni déclaration, ni contrôle. Non, mais personne qui va vous le dire non plus. Mais ça existe.
Cette émission a été réalisée par Olaf Böhmer et Alexandra Joss pour Onde Courte. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes nos émissions sur ondecourte.fr, la web radio du libre.